Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Un petit mot avant de commencer cet épisode, c'est la première fois que j'enregistrais dans ces conditions, vous allez vite comprendre de quoi je parle. C'est pourquoi la qualité du son est un petit peu différente par rapport à d'habitude, on entend un léger bruit de fond justement. J'espère que ça vous dérangera pas trop, je vous laisse avec l'épisode et merci pour votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Un Café cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver, notamment parce que j'ai ma première invitée avec moi, Nadia Richard, que j'ai rencontrée il y a quelques années via Instagram. Je te laisse te présenter un petit peu.
Mais oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadia Richard. Je fais donc des vidéos sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant. Je faisais partie un peu des premiers et des premières surtout à me lancer là-dedans. Et au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée dans les histoires d'amour. C'est-à-dire que les gens me racontent leurs histoires et puis moi j'essaie de leur donner des conseils et de faire en sorte qu'ils se sentent mieux et qu'ils soient heureux en amour surtout, parce que c'est hyper important. Et le nom de ma chaîne YouTube du coup c'est Utile Futile pour celles et ceux qui voudraient la retrouver. Et j'ai sorti il y a pas longtemps un livre aux éditions Larousse qui s'appelle Parlons Cash et qui parle justement de la séduction, de la sexualité aussi beaucoup. Voilà, c'est mon petit portrait.
Et du coup on s'est rencontrés parce que c'est au moment où tu prenais ton chien.
C'est ça.
Il me semble, et que tu m'as envoyé un message, c'est un bosseron du coup, tu cherchais des infos sur les bosserons, et tu m'as envoyé un message, et moi je me suis retrouvée aussi dans ton contenu, je t'ai envoyé un...
Ça allait très vite, on a discuté, parce qu'effectivement moi j'avais tapé bosseron, et j'étais tombée sur ton site, et sur ton compte pardon, et je m'étais dit oh c'est génial ce qu'elle fait et tout, et effectivement très vite on s'est mis à se raconter un peu nos vies.
Ouais.
Et c'est venu facilement et puis on s'est vu. Tu m'as invité chez toi à Saint-Tropez.
Ouais.
Quand je tournais dans Plus belle la vie. Enfin, j'avais vraiment pas tourné longtemps, mais on avait réussi à dormir l'une chez l'autre et l'amitié est née quoi.
Ouais, complètement. Et du coup, c'était une évidence pour moi de t'avoir comme première invitée parce que tu m'as vachement et tu m'aides toujours à. T'es un peu mon mentor en termes de réseaux sociaux. Non mais c'est vrai. Et c'est trop cool de pouvoir en discuter avec quelqu'un et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui.
Eh bien, je suis ravie et flattée d'être invitée sur ce podcast.
Et du coup, là, je me trouve à Paris. Je suis là depuis jeudi, ça fait quelques jours. Si jamais vous êtes sur Paris, vous avez l'occasion d'y passer. Alors, c'est jusqu'à janvier. J'ai fait deux expositions, celle de Friends. Je sais plus si j'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode précédent. Si vous aimez cette série, allez-y, c'est vraiment cool. Évitez peut-être les heures où il y a trop de monde, comme les week-ends par exemple. Parce qu'il y a un petit peu d'attente, mais franchement, c'est très très bien fait, donc je le conseille. Et deuxième chose, on a fait une exposition samedi, c'est une exposition gratuite de Chanel. Même si vous n'êtes pas fan de luxe ou autre, franchement, je le conseille parce que c'est hyper interactif et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est au Grand Palais Éphémère sur le Champ de Mars et franchement, c'est incroyable. Si t'as l'occasion d'y aller d'ailleurs, je te le conseille.
Mais j'ai déjà dit à mon mec, il faut qu'on y aille. On fait trop peu d'expositions, notamment depuis qu'on a le baby et ça me tente trop quoi.
C'est indiqué sur le site que l'exposition est complète, mais faut pas hésiter à se rendre sur place parce qu'ils font rentrer quand même des gens.
Okay.
Même si on n'a pas réservé avant sur internet, mais ouais, j'ai même fait une expérience en réalité virtuelle où ils recréent en fait le salon de Coco Chanel et j'étais, c'était vraiment une fiction quoi, la personne Ernest Beau il me semble, qui l'avait aidé à choisir l'échantillon pour le parfum numéro 5. Parce que le Chanel numéro 5, d'ailleurs je ne savais pas, si vous ne savez pas non plus, ça vous fera, c'est la minute culture, a été sélectionné parce que c'était le cinquième échantillon et elle s'est dit, j'aime ce nom, on va le garder comme ça et c'est pour ça qu'il s'appelle Chanel numéro 5. Moi je pensais qu'elle avait fait 4 parfums avant, mais pas du tout.
Et d'ailleurs Chanel numéro 5 a été très 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 longtemps le parfum le plus vendu au monde. Et tu sais quel parfum l'a devancé?
C'est une très bonne question, je ne
sais
pas.
Quel parfum tu sens partout, tout le temps dans la rue?
C'est un autre de grande marque, Hermès, non?
Non.
Aucune idée.
Paco Rabanne, 1 million.
Ah ouais?
Ouais. Qui c'est le seul qui a détrôné Chanel numéro 5. C'est fou.
Je savais pas. Mais ça veut dire que c'est récent alors.
Ah bah oui, bien sûr. Donc pendant si longtemps, Chanel numéro 5 est resté le parfum le plus vendu, quoi.
Ouais, c'est incroyable. Mais même pendant cette expo, il y a des espèces de tubes où on peut sentir, parce qu'il a évolué hein, en fonction du parfum, le toilette, ils ont sorti plusieurs versions. Et tu peux rentrer dans des tubes où t'as la première version de 1921, ensuite t'as la deuxième. Tu vois, enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. Génial. Donc je te conseille, ils ont même mis des magiciens au milieu, il y a des danseurs. Ils ont fait comme un cabaret, un peu un casino, avec des jetons. Où tu peux jouer, gagner des prix. Alors, tu vois, c'est des petits bracelets, des trucs, mais c'est incroyable, franchement.
C'est des petits bracelets, les petits bracelets Chanel, on prend.
Ouais. Alors, je pense pas que ce soit ce qui est vendu en magasin, mais non, franchement, à faire si vous êtes sur Paris. Alors, par contre, je crois que c'est jusqu'à mi-janvier, mais voilà, je vous recommande. Est-ce que toi, t'as une petite recommandation à nous faire, ou pas, peut-être hein, d'ailleurs
De choses à faire à Paris.
Choses à faire à Paris, ou de livres que t'as lu, ou un, je sais pas, un podcast, un film récemment, ou pas, encore une fois.
Est-ce que je peux faire une dérecommandation?
Complètement.
Écoute,
ça change.
Moi, j'ai découvert Game of Thrones pendant le confinement. Je connaissais pas du tout avant, tu vois, et donc j'ai profité de cette occasion pour me faire tout Game of Thrones d'un coup, donc j'ai trop kiffé, évidemment.
Ouais.
Et donc, suite à ça, on m'a dit, mais House of Dragons, ça vient de sortir, c'est donc le spin-off de Game of Thrones, où en gros, ça se passe avant, c'est un peu comme Star Wars, ils se la jouent, on fait le truc qui s'est passé avant. Et ben franchement, en tout cas de mon côté, mais j'ai trouvé ça long et creux, c'est-à-dire que t'attends un peu, les 2-3 premiers épisodes, tu te dis, allez, c'est l'univers de Game of Thrones, ça fait plaisir de toute façon, et puis ils ont gardé la même musique du générique, tu vois, donc t'es en mode, waouh, génial. Et en fait, vraiment, là, on en est à l'épisode 8. Et on continue de se dire, bon, quand est-ce que ça commence, quoi. Donc voilà, je conseille pas ça. Ou ne serait-ce que pour la déception, je conseille à chacun et chacune de regarder et de se faire sa propre opinion. Parce que pour ma part, j'étais terriblement déçue.
Bah, c'est marrant parce qu'on a bien aimé, nous.
Mais
c'est vrai ? Ouais, mais je pense parce que ça reste focus sur une famille. Donc si vous regardez avec l'esprit vraiment Game of Thrones, où ça change tout le temps, où il y a de l'action, etc. Effectivement, on peut être déçu. Mais l'univers... Et là,
oui,
mais il n'y a pas l'action. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus lent, c'est un peu plus politique, c'est un peu plus dans...
C'est ça.
Ouais.
Moi, je te trouve gentille quand tu dis il n'y a pas l'action. Moi, j'ai trouvé ça un peu creux, quoi. Mais bon.
Mais j'ai déjà entendu ce retour. Mais
ok.
C'est bon, j'ai eu la même conversation avec quelqu'un d'autre qui a dit qu'ils n'avaient pas trop aimé. Et puis au final, bon, après, effectivement, je pense que c'est à chacun de se faire son propre avis. Mais il ne faut pas partir avec... l'idée de se dire ça va se battre dans tous les coins.
Voilà, c'est ça. Faut pas partir en se disant ah, trop bien, on continue Game of Thrones. C'est
ouais.
Autre chose, c'est une autre patte.
Mmh. Ok, super. Bah écoutez, comme ça, tout le monde pourra se faire sa propre idée. Merci.
Mais avec plaisir.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cette semaine, j'ai proposé à Nadia en fait de faire une petite liste des choses des petites habitudes, des petits trucs, je sais pas exactement comment le définir et je risque de galérer à trouver le titre de cet épisode, mais qui nous font du bien en fait dans notre quotidien, qui nous aident à améliorer notre quotidien, notre façon de faire, de penser, mais aussi d'un point de vue organisation. Et j'ai noté quelques tirets, j'ai proposé aussi à Nadia de faire de même, et l'idée c'est d'échanger un petit peu sur toutes ces petites choses-là. Et j'ai noté en premier, trouver une activité sportive ou autre qui peut nous faire du bien. Je suis consciente que tout le monde n'aime pas forcément le sport, ou ça parle pas forcément à tout le monde, ou alors, surtout en hiver, on n'a pas forcément la motivation. Maintenant, je pense que c'est aussi important pour bien vieillir d'un point de vue santé générale, de voilà, garder même marcher ou trouver au moins quelque chose par exemple si on aime bien écouter un podcast, se dire bah, on va se balader 10 minutes. Ça fait du bien en fait de bouger tout simplement, sans faire 3 heures de sport par jour. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, et si parfois il vous manque juste ce tout petit truc en motivation, de se mettre le coup de pied aux fesses qui va nous donner l'élan, même si c'est que 10 minutes, ça peut vraiment nous faire du bien et je trouve que ça peut nous mettre dans un bon état d'esprit. Donc ouais, c'est mon premier point.
Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus et en même temps, moi je fais partie de celles et ceux, c'est drôle, on en discutait tout à l'heure, de celles et ceux qui, s'il n'y a pas d'obligation, vraiment, je peux tout à fait, sans aucun problème, rester 3 jours enfermée chez moi. Mais pas de problème. En plus, j'ai un appartement lumineux, vraiment, j'y suis bien, pas de problème. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris un chien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour me forcer à sortir, parce que je me rendais compte que sur une question d'hygiène de vie, c'est pas très bon, malgré tout, hein, de rester enfermée chez soi. Et donc, j'ai pris ce chien Booba, pour la petite histoire, qui me force à sortir tous les jours pendant plusieurs heures, et c'est une très bonne chose. Malgré tout, je me souviens très bien de ce dont tu parles, de ce manque de motivation, et c'est vrai que toutes les fois où je suis sortie, et c'est drôle d'ailleurs parce que tu le dis dans tes stories, tu dis si jamais il y a un truc qui va pas ou quoi que ce soit, allez faire un tour, c'est fou à quel point prendre l'air ça fait en sorte qu'on aille vachement mieux, etc. Et à chaque fois je me dis putain j'ai pas envie, mais de toute façon je suis forcée par Booba, et je pense que s'il y avait pas Booba, je ne trouverais pas ce petit élan de motivation en plus. Toujours est-il que c'est vrai, et très souvent je pense à toi d'ailleurs, parce que quand je reviens, je me dis, oh, mais ça va tellement mieux. Et combien de fois, tu vois, sur un week-end, tu sais, des moments où t'as des petits coups de mou, et notamment en hiver, genre ça arrive tout le temps avec la déprime hivernale, mon mec, qui évidemment me connaît très bien, me dit très souvent, allez, quand t'es comme ça, c'est qu'il faut sortir, viens, on sort, viens faire un tour. Et là, je lui dis, mais non. Il me dit, si, mais tu le sais en plus. Et je dis, oui, je sais que t'as raison, mais non. Et on sort, et ça va tellement mieux après. Donc je suis vraiment d'accord avec toi, c'est une si bonne habitude à prendre, un réflexe à prendre en fait.
Ouais, et je pense que si on est... Enfin, on peut jamais regretter en fait d'être sorti ou de s'être bougé. Encore une fois, même si c'est juste pour s'étirer 5 minutes, ça change vraiment notre état d'esprit général et notre bien-être.
Ça oxygène le corps en fait, c'est assez hallucinant.
Ouais. Et c'est la transition parfaite pour le deuxième point où en fait je me rends compte à quel point au quotidien le corps et l'esprit sont liés et l'importance de prendre soin des deux. Je me rends compte que quand je vais pas bien dans ma tête, quand je suis stressée, quand ça va pas, quand j'ai un coup de déprime, mon corps en fait empathie aussi. Et du coup, je me rappelle vraiment de prendre soin des deux. Donc ça passe notamment par l'activité sportive, mais aussi par me détendre physiquement pour aussi aller bien mentalement. Même dans ma vie en général, alors sur des problèmes plus ou moins importants de santé, ça s'est prouvé plusieurs fois. Il y a forcément des problèmes de santé qui parfois nous échappent un peu. Mais ça joue aussi et je trouve que c'est important de le garder en tête pour juste d'en avoir conscience en fait, ça aide à prendre des petits réflexes justement pour faire en sorte de prendre soin des deux. J'ai du mal à finir ma phrase.
Je vois ce que tu veux dire. Moi c'est une chose que j'ai très rarement en tête, mais je me rends compte, surtout maintenant que j'ai un bébé, puisque ça fait, il va bientôt avoir 1 an, donc ça fait 1 an que ma vie a subi une tempête, je me rends compte que depuis toujours en fait, j'ai eu ce réflexe de dormir un maximum. J'ai toujours dormi un maximum et j'ai toujours très très bien dormi. Et une fois que t'as un enfant, bah forcément ta dette de sommeil grandit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte d'à quel point le sommeil avait une importance mais vitale dans ta vie, pour ton corps et surtout pour ton mental. Et pour tout le reste, pour donner l'intitulé de la bonne habitude à prendre, c'est vraiment dormir tout ce qu'on peut, et même limite minimum 8 heures par nuit, parce que quand tu as bien dormi, tout va bien, mais quand tu n'as pas dormi, tu es irritable, t'es fatigué évidemment, et quand t'es fatigué et irritable, il y a des choses que tu vas moins bien faire. Tu vas te cogner plus facilement, tu sais, tu vas te faire mal, tu vas dire, ah putain, t'es pas content.
Plus maladroit, ouais.
Voilà, tu vas plus facilement t'engueuler avec les gens, on va être moins tolérant, moins patient, et en fait, c'est la plus évidente à mon sens, relation entre le corps et l'esprit, où si ton corps est fatigué, ton esprit l'est aussi, et c'est le début de la fin en fait.
Ouais, mon père dit toujours le meilleur médicament c'est le sommeil.
C'est clair.
Et c'est vraiment vrai pour le coup. En plus toi t'as l'expérience et le recul justement de l'avant après enfant, donc je pense que tu dois vraiment voir la différence entre les deux justement.
Mais
et à quel point
impressionnant.
Ça joue sur ton mental au quotidien, tu le sens?
Ah ouais, mais sur mon mental et puis même sur mon corps, tu vois, je me suis rendu compte. Alors bon, après forcément ton corps postpartum c'est encore un autre sujet, mais je me souviens par exemple pendant mes 3 premiers mois postpartum d'avoir eu si mal au dos. Et bon, tu sais, enfin normalement postpartum c'est autour du ventre, du bassin, etc. Normalement le dos, notamment le haut du dos, c'est un petit peu épargné. Alors évidemment tout est lié dans le corps, mais j'avais si mal au dos, vraiment je pouvais plus faire certains mouvements. Et c'est là que je me suis dit waouh, en fait je suis si fatiguée que ça m'en arrive là. Et tu sais quand on dit t'en as plein le dos. Mais littéralement, j'avais le dos tout bloqué, quoi.
Ouais,
et bizarrement, parce qu'au début, je pensais que c'était l'allaitement, parce que je me mettais dans une certaine position quand j'allaitais, etc. Parce que j'allaitais toujours et j'ai plus mal au dos. Mais du jour où mon fils a un petit peu mieux dormi, il n'y avait plus rien.
Ouais. Dans tous les cas, l'expression, je pense qu'en avoir plein de dos est très parlante aussi. Et souvent, quand on est stressé, fatigué, on est un peu tendu. Là. Moi, ça m'arrive très souvent.
C'est clair.
Du coup, c'est pas totalement invalidé. Et d'ailleurs, on va rester un peu dans le prendre soin de soi, etc. Bloquer des moments pour soi comme un rendez-vous. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ma routine du dimanche soir. Et alors, en fonction des emplois du temps, comme tu disais, on en discutait tout à l'heure, quand ton enfant, si vous avez des enfants, va à la crèche ou à l'école, ça permet justement de bloquer des moments si nos horaires le permettent. Mais même sans enfants, je trouve que la vie passe vite. Et justement, si on prend pas ce moment-là, si on se le bloque pas comme si on avait un rendez-vous de médecin de telle heure à telle heure, hop, c'est pour moi. Bah on oublie un peu et je trouve que c'est important, donc ça, c'est une autre dimension, c'est une organisation en fait, même plus.
Et alors, tu vas faire quoi? Parce que tout à l'heure, comme exemple, tu me disais, ah, par exemple, parfois, je vais prendre soin de ma peau ou quoi que ce soit. Mais si c'est pas des soins cosmétiques, par exemple, tu vas faire quoi pour prendre soin de toi?
C'est très lié notamment à l'activité en général, par exemple aller marcher un coup, même de m'aérer. Donc j'en profite pour sortir mon chien aussi.
Mais
j'écoute un podcast, un truc qui me fait du bien, ou qui m'apprend des choses, ou qui me divertit tout simplement. Ou alors je vais prendre le temps, par exemple, de cuisiner un peu plus. Ça me fait du bien aussi dans le mental. Je me mets une petite série en fond, un petit truc à boire, et c'est un petit peu un moment aussi pour moi tranquille. Ou alors j'aimerais arriver à plus lire, mais j'arrive pas. Je prends pas le temps de le faire. Mais j'aimerais arriver à me dire, bah, pendant 30 minutes, je lis. Ou maintenant, ce que je fais de plus en plus, c'est de prendre le temps, et pareil j'en avais parlé dans l'épisode sur la cohérence cardiaque justement, de même 5 minutes, je me mets une musique un peu relaxante, je m'assois et je respire tranquillement. Quand je sens que voilà, ça monte un petit peu et que j'ai du mal à me gérer ou que je respire mal tout simplement, de vraiment respirer profondément, c'est 5 minutes mais ça m'aide à me recentrer en fait. Et ouais, à redémarrer bien. Un petit peu plus sereinement, on va dire.
Mais c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. De prendre du temps pour moi, que pour moi, mais qui ne soit pas productif. Je suis incapable d'être non productive. Mais d'ailleurs, ça porte un nom, hein, c'est la surproductivité abusive ou un truc comme ça. Enfin bref, dans tous les cas, c'est trop. C'est-à-dire que si je fais un truc, ne serait-ce que pour me détendre, il faut que ce soit productif. Tu vois, typiquement, ne serait-ce que mon boulot. Mon boulot, bah, je fais des vidéos. Alors oui, je kiffe. Je peux pas te dire que ça me détend, mais en tout cas, j'aime ce que je fais. Malgré tout, c'est productif. Je vis de ça. Tu vois, je me suis mise à la couture. J'adore la couture. C'est génial. Par contre, il va falloir que je le monte sur Insta. Ça tombe bien, ça fait du contenu. Je suis obligée de voir une sorte de rentabilité dans ce que je fais. Ce qui fait que finalement, je ne me détends jamais vraiment. Et c'est quelque chose que je suis incapable de m'autoriser. D'ailleurs, tu vois, un exemple, mais si vrai. Les jeux vidéo. J'aime bien les jeux vidéo. Alors, j'en aime pas beaucoup, mais j'aime bien jouer aux Sims, j'aime bien jouer à Pokémon. J'ai téléchargé le jeu Pokémon quand j'étais à l'hôpital, quand j'allais accoucher. Parce que c'était le jour de la sortie de ce jeu, et je l'avais téléchargé sur ma Switch. Évidemment, j'ai pas joué parce que les contractions, tout ça, c'était pas du tout le moment.
Il est où le Pokémon?
Voilà. Mais depuis, évidemment, que j'ai eu déjà une heure ou deux devant moi où j'aurais pu y jouer et ça m'aurait fait plaisir. Et ben, jamais, 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 je n'ai pris ce temps-là. Parce que je me dis, non mais attends, c'est bon, là, t'as tellement d'autres trucs à faire, c'est vraiment pas le moment de jouer à des jeux vidéo en fait. Et c'est là que je me dis, mon dieu, je réfléchis vraiment comme une daronne, déjà, mais en fait, je suis pas convaincue que ce soit la meilleure façon de réfléchir, puisque bah, je m'autorise pas de moments de réel lâcher prise. Alors, je parle du jeu vidéo parce que c'est un exemple très, très facile, mais il y a plein d'autres choses comme ça où, effectivement, si c'est pas rentable, bah, je vais pas me l'autoriser. Et c'est hyper intéressant que tu dises ça, que tu le fasses, et c'est pour ça que je te posais la question de si tu fais pas un truc cosmétique, parce que, bon, moi les cosmétiques ça me gonfle, qu'est-ce que tu fais? Parce que je me dis, j'avoue, pourquoi je fais pas ça quoi?
Alors, je suis pas à 100%, hein. On a l'impression que je me détends toutes les... mais c'est encore un travail, parce que je suis un peu pareil que toi, justement, j'arrive pas à me poser. Je vois ma sœur ou même mon copain qui peuvent passer la journée à glander, à se poser, rien faire, moi ça me rend folle, et j'arrive pas. Alors est-ce que c'est une question d'éducation ou pas? Mais c'est un peu le côté, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, et après. Et pareil, je suis aussi dans l'optimisation du temps. L'autre jour, je suis allée déposer des vêtements, déposer des colis, enfin des vêtements que je voulais donner, poser des colis, je sortais le chien, je validais mon podcast en même temps. Pareil. Un peu dans l'optimisation du temps. Mais j'essaye de me forcer en fait à prendre ce temps, et je sais qu'il y a cette phase un peu bâtarde où c'est contre nature, et après ça devient un peu plus normal jusqu'au moment où ça va devenir une habitude. J'ai fait ça un peu dans ma manière même de penser ou d'aborder les choses. Au départ, c'est je me force. Et après, ça devient un peu plus normal, on va dire. Donc, j'y suis pas encore non plus.
Oui,
mais je pense à conscience, en avoir conscience, en voilà. Fait, c'est la première étape.
C'est là que je voulais en venir. Tu l'as malgré tout en tête. En fait, je suis assez fière de moi, bizarrement, parce qu'au moment où t'as dit, voilà, je vais me faire un peu plus à manger, etc., je me rappelle d'une ou deux fois récemment où je me suis dit, oh, bah allez, je vais regarder quelque chose qui me fait plaisir, puis je vais me prendre un petit verre à côté. Et donc, en fait, je me suis dit, mais si, regarde, tu l'as déjà fait. Donc, ça me rassure un peu, parce que je me dis, ok, si, en fait, je prends quand même des moments pour moi qui sont pas rentabilisés. Ouais. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas en avant, je pense.
Oui, et puis c'est pas forcément faire quelque chose, ça peut être, comme tu dis, faire quelque chose qui nous fait plaisir. L'exemple de la cuisine, ça me fait plaisir, donc ça me détend. Aller me prendre un café emporté dans un petit coffee shop que j'ai repéré sur Google parce qu'il avait de super notes, c'est prendre soin de moi, je le vois comme ça, parce que ça me détend. M'occuper de brosser mon chien, ça me détend. J'adore cirer les chaussures, me demande pas pourquoi, parce qu'il y a ce côté satisfaction un peu immédiate. Je fais ça devant un film, ça me détend, et j'ai envie de croire en tout cas que c'est quelque chose que je fais pour moi parce que ça me fait du bien en fait. C'est plus dans cet esprit. Jouer au piano par exemple, t'aimes la musique, le chant, etc. Le voir comme un moment pour toi.
Ah non, moi maintenant là, mais, et c'est très nouveau, enfin c'est très nouveau, non. Mais là, ces derniers temps, quand je joue du piano, c'est pour composer, pour un jour sortir mon album. J'ai toujours une idée derrière la tête de rentabilité, toujours. C'est
oui,
terrible.
Oui, et en même temps, si c'est ce qui fait que tu vis bien avec ça, et que ça t'aide si tu veux être
oui.
sereine. Mais je pense qu'effectivement il y a peut-être un équilibre à
voilà.
trouver.
C'est ça.
Mais d'en avoir conscience.
C'est déjà ça, c'est déjà ça, effectivement. Ouais. Et pour autant, ça fait quand même partie de mon plaisir parce que tu sais, j'ai la chance du coup d'avoir une communauté, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand j'ai bossé un peu un morceau où je chante et que je le poste sur mes réseaux, alors effectivement, ça reste de la rentabilité, mais c'est un réel plaisir d'avoir les retours des gens. Donc c'est toujours un peu 50-50 en fait, rien n'est tout blanc ou tout noir.
Ouais.
Il y a toujours un petit peu des deux dans tout.
Oui, après je pense que c'est trouver ce qui nous convient aussi. Si de fonctionner comme ça en disant bah je me bloque un moment, plus ou moins on va dire prévu, plus ou moins écrit dans le calendrier, si c'est ce qui vous convient à vous, faut tenter. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à, si vous savez pas trop, tester les choses, voir ce qui fonctionne pour vous et garder en fait ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous convient. Ça commence par là et effectivement après avoir conscience de quand est-ce qu'on est plutôt dans une extrême
ouais,
et on aimerait clair. Trouver un équilibre un peu plus serein on va dire sur le long terme. Surtout avec une vie de famille, canine, de
c'est
couple, etc. Ça me permet d'enchaîner, du coup j'ai noté justement trouver du positif dans chaque situation. Je me rappelle d'un jour où ça a vraiment switché dans ma tête. J'étais petite, enfin petite, adolescente je crois. J'ai conscientisé le fait que souvent je voyais un peu que le négatif. Et d'ailleurs mon copain continue à me le dire. Je pense que c'est mon côté un peu angoissé qui fait que j'anticipe tous les éventuels problèmes histoire de pas être surprise et donc m'angoisser encore plus. Et par exemple si on organise quelque chose ou on a un projet, je vais inconsciemment un peu aller voir tout le négatif ou poser ou relever tout le négatif plutôt au lieu de, comment dire, de me concentrer sur le positif. Alors c'est important pareil de trouver cet équilibre là, mais maintenant pareil j'essaye de tirer le positif, de faire attention à ça et conscientiser cette chose là peu importe ce qui m'arrive dans la vie ou alors les projets que je fais ou ce que j'ai envie ou même dans le quotidien, tirer le positif et me forcer à être un peu moins dans la négation.
Ok,
tu vois,
alors être un peu moins dans la négation ou être un petit peu moins dans l'appréhension de ce qu'éventuellement il pourrait se passer.
C'est une très bonne question.
Parce que moi de mon côté je suis un petit peu comme toi, alors beaucoup moins parce que je pense que on peut pas dire de moi que je suis une angoissée, ça c'est vraiment pas vrai, mais je sais très bien qu'effectivement lorsque je m'apprête notamment à voir quelqu'un, puisque moi mon truc encore une fois c'est les interactions sociales, je me demande toujours sur quel sujet ça pourrait déraper, sur quoi j'ai pas envie d'aller, comme si je me mettais une map mentale des limites que je voulais pas dépasser, tu vois.
Ouais, ouais, moi c'est plus par exemple, reprenant l'exemple, je vais voir quelqu'un. Moi qui suis assez angoissée, notamment par la sécurité, je vais me dire une fois que je serai avec la personne, ça ira parce que je sais que je pourrais gérer. Mais aller là-bas, c'est ça qui m'angoisse.
C'est drôle, alors que moi, aller là-bas, c'est ça qui me saoule, vraiment, parce que vraiment le trajet. Tu sais, on dit toujours, ah, c'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Alors je veux dire qu'à La Chapelle, t'as pas envie de faire le trajet, tu vois. Mais pour celles et ceux qui connaissent pas La Chapelle, c'est un endroit vraiment nul dans Paris, et évidemment, il fallait que j'habite là. Non, moi tu vois, je vais plutôt me dire à quel point la personne va me prendre de l'énergie.
Ok.
Parce que tu sais, il y a des gens où tu vas passer du temps avec eux, tu peux passer la journée entière avec eux, t'es bien, il y a pas de problème. Et il y a d'autres gens qui vont te prendre beaucoup plus d'énergie. C'est pas pour autant que c'est des personnes toxiques, hein. C'est juste que ben tu vas donner vachement plus, tu sais pas pourquoi. Et quand il s'agit de personnes qui me prennent beaucoup d'énergie, parfois je me dis mais je vais annuler.
En amont, ça te
Ah ouais. Et je me dis mais comment je vais faire pour écourter Alors que parfois même je suis agréablement surprise, je me dis bah non en fait tout va bien et tout. Mais ça c'est quelque chose de très difficile pour moi. L'énergie. C'est même pas que je me sens tellement obligée, c'est que je suis comme ça. Si j'accepte de partager un moment avec quelqu'un, je suis à 100%. Je sais pas faire semblant. Tu vois. Et du coup, je suis presque victime de moi-même là-dessus, parce que ben, parfois je donne trop et j'arrive pas à respecter cette limite.
Ouais, je comprends. Et bah, d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure en disant, je pense que c'est important. Moi, j'ai fait ce tri un peu dans ma vie, ou du moins j'évite les situations qui me prennent justement trop d'énergie négative. Et effectivement, c'est des choses. Quand tu sais pas en amont, bah, tu gères un peu sur le coup. Mais pareil, j'essaie de faire ce travail en disant bon, ça c'est bien. Ou alors, par exemple, s'il y a quelqu'un que t'es obligé d'aller voir, t'arranger pour écourter le truc ou dire il faut vraiment que je file, j'ai un rendez-vous derrière.
Ah, mais c'est ça qui est trop dur. Et moi, vraiment, c'est bizarre, je suis comédienne, mais je sais pas mentir. Et j'ai tellement l'impression de manquer de respect à la personne à ce moment-là que, en fait, du coup, je préfère annuler. Ou même dès le départ, je dis non parce que je le vis trop mal quand je fais ça en fait. Le truc, c'est que si on me le fait, je le vois toujours évidemment. Ça clignote chez moi. Genre, si tu me fais ça, je vois très bien que t'es en train de me faire ce coup-là. Bah, c'est un peu vexant, tu vois.
Ouais.
Et j'ai tellement pas envie de faire aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse. Que je préfère juste pas voir la personne.
Tu comprends.
Quitte à ce que ça passe un peu en mode ah bah c'est un peu une connasse, elle prend pas le temps, mais tant pis en fait.
C'est marrant les manières. Enfin, là je vais repartir, je sais que le trajet jusqu'à l'endroit où je dois aller, ça va me pomper quoi.
Oh, je comprends trop. Ah bah ça moi aussi. Mais moi c'est parce que ça m'ennuie. Alors que toi c'est plus une angoisse.
Moi ça m'angoisse.
Ouais, c'est dingue.
C'est marrant de discuter de ça parce que c'est des situations du quotidien et en fait de voir à quel point les gens les vivent de façon totalement différente, enfin totalement ou presque.
C'est parallèle en fait.
Oui, voilà.
Dans tous les cas, le sentiment est pas très agréable.
Ouais.
Mais c'est très parallèle, c'est-à-dire que toi ça va être de l'angoisse, donc entre guillemets plus grave. Et moi c'est juste que ça me saoule quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, combien de fois, et je sais que j'ai des amis qui sont exactement comme ça, combien de fois je me suis dit ah non mais ça c'est trop loin. C'est même pas que j'ai la flemme. C'est que c'est une trop grosse charge mentale de me dire que je vais devoir par exemple traverser Paris ou prendre la voiture, tant pis j'y vais pas. Même si c'est quelqu'un que j'ai très envie de voir et parallèlement le mois prochain je traverse la terre entière pour aller voir ma meilleure copine.
Ouais.
Va savoir pourquoi. Après je pense qu'il y a aussi une question d'affinité avec les gens et de motivation.
Oui, et qu'est-ce que tu retires de cette situation? Effectivement, si tu traverses la terre si tu sais que tu vas être reboosté et ça va faire tellement bien et te ressourcer versus traverser une ville où tu sais que tu vas être un peu drainé à... Enfin,
c'est pas la même
qu'est-ce
chose.
Que tu retires de cette situation? Ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Merci de tes confidences.
Mais avec plaisir.
Et ça me permet de faire le lien, du coup, avec le tiret suivant qui touche à la communication, notamment en couple. J'ai noté ne pas hésiter à mieux communiquer avec mon copain et dire ce qui pouvait... les petites choses qui pouvaient me gêner. Je donne un exemple. Par mon expérience, il y a plein de petites phrases ou attitudes qui moi me soit m'angoissent soit qui peuvent me faire peur. Un exemple tout bête, c'était au début de notre relation et c'était complètement pour rigoler. J'ai dit une bêtise où j'ai taquiné mon copain, j'en sais rien, et pour rigoler dire ah je vais te tuer. Et moi je l'ai pris mais de façon tellement violente. Encore une fois, de par mon histoire, ça m'aide pas et ça m'a mis dans un mal-être horrible. La promesse que je me suis faite et que je lui ai faite aussi, c'est de dire dès qu'il y a quelque chose qui me gêne ou même si c'est tout bête, il faut que je te le dise pour m'enlever ça de la tête et éviter de me faire des films. Ou alors pareil, des petits problèmes qui sont complètement anodins, moi si je le dis pas, ça fait un peu le vélo dans ma tête et ça devient des problèmes énormes et à partir du moment où je lui en parle, il n'y a que des solutions. Surtout qu'au départ, et c'est ce qu'on disait juste avant, c'était vraiment contre nature, maintenant c'est quasi normal. C'est pas toujours simple, il y a des moments où j'ai du mal à lui dire les choses, mais je le connais mieux, donc je sais comment il va réagir et donc je me sens beaucoup plus à l'aise de lui dire les choses. Mais à ce moment-là, ça faisait que quelques mois à peine. Et je lui ai dit, je suis désolée, ça va paraître vraiment bête ou exagéré, mais j'ai besoin de te dire que cette phrase, je l'accueille de façon vraiment violente, alors que c'est vraiment, entre guillemets, la manière dont il l'a dit, et puis c'est vraiment pas quelqu'un comme ça, mais ça avait rien à voir entre la manière dont il l'a dit et la manière dont je l'ai reçue. Et donc je lui ai dit, et tout de suite il m'a dit, ah mais non, t'inquiète pas, c'était juste une bêtise, faut pas s'appuyer sur ce genre de choses, mais ça a entraîné chez moi vraiment ce réflexe de me forcer à vraiment dire les choses quand je me sens pas bien. Je pense avec nos proches aussi, quand on peut le faire, c'est aussi important. S'il y a des choses qui nous pèsent, de dire les choses. Je dirais une phrase, j'ai cité mon père plusieurs fois dans ce podcast parce que c'est quelqu'un de très sage. Et à chaque fois, il a cette phrase que je trouve hyper parlante, c'est « Avec des briques de silence, on construit des murs d'incompréhension ». Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc voilà, c'était mon petit truc qui m'aide beaucoup, en tout cas notamment dans ma vie de couple.
Moi, je suis précisément à l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un truc qui me dérange, t'inquiète pas que je vais le dire. Et en fait, j'ai un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que moi, c'est avec des briques de reproches, on construit des murs de bataille, je sais pas, mais c'est pas bon non plus. Parce que je sais que très souvent, mais j'en discute d'ailleurs avec des amis, t'es notamment sur les tâches ménagères, parce que c'est ça le problème numéro 1 dans les couples, je pense. Et si c'est le seul problème qu'on a, je pense que c'est qu'on est un couple heureux. C'est ah ben j'en fais plus que toi, en gros. Je me souviens d'avoir discuté de ça avec une copine qui me disait bah voilà, là j'ai pris mon mec entre quatre yeux, je lui ai dit écoute, ça fait quelques semaines, je remarque que t'en fais un peu moins et tout. Et je lui ai dit mais mon dieu, t'es tellement plus fine que moi. Parce qu'en fait, elle m'expliquait que cette conversation avait vraiment porté ses fruits et que son mec lui avait dit putain, je suis désolée, mais ouais, t'as vraiment raison. Même s'il était un peu vexé évidemment, t'as vraiment raison, je vais faire attention, etc. Sauf que moi, je suis tellement non-stop. Quand il y a un truc qui me saoule, donc prenons l'exemple du ménage puisque c'est l'exemple dont je parlais, je vais vraiment dire ah bah tu vois, Il y a du relâchement. Ah bah ça tu l'as pas fait. Ah, et en fait, déjà je suis comme ça, je sais très bien d'où ça me vient. Ma mère m'a saoulée toute ma life en m'expliquant que je laissais ça traîner et que tout le monde laissait tout traîner. Enfin bref, qu'elle était toute seule à s'occuper du ménage. Et je me rends compte déjà que je deviens comme elle à ce sujet-là alors que je m'étais promis de pas le faire. Mais surtout, je me rends compte que, à l'instar de ce que vivait ma mère, ça n'a aucun impact sur lui puisque toute la journée je suis en boucle. Enfin, là, je me fais passer pour une meuf trop chiante. Je suis hyper sympa, hein, remettant l'église au milieu du village. Mais d'en avoir conscience, je pense que c'est une bonne chose. Mais tu vois, j'ai tilté ça, là, il y a 3 jours.
C'est un peu quantité sur qualité des reproches.
En fait, je pense que la surcommunication sur des choses négatives, c'est mauvais. C'est le constat que je fais. Du coup, je me retrouve dans un rapport où je suis la mère chiante qui vient saouler son ado avec des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Évidemment, personne n'a envie de faire le ménage. Mais je pense que... En fait, à rabâcher, on se met plus dans un rapport d'égalité. Parce que j'ai pas à te dire quoi faire et en même temps on habite ensemble, etc. Enfin bref, ma réflexion est pas encore tout à fait mûre à ce sujet-là, mais je me rends compte que discuter sur les choses qui ne vont pas, c'est hyper important, il faut toujours le faire, mais ne pas le faire à chaque fois, notamment si c'est quelque chose qui peut arriver plusieurs fois par jour. Moi par exemple, je sais que je commence à travailler là-dessus, où vraiment je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche en me disant « Non, ravale ce que t'as à dire, effectivement ça te saoule. » Tu vas pas le dire par exemple pendant X temps, mais peut-être que la prochaine fois que tu le diras, ben, ça aura un petit peu plus d'impact. À voir, je teste des choses.
En étant, comme tu dis, dans la surcommunication, l'autre n'a même pas le temps, limite, de faire ce qu'il a à faire, par exemple, en prenant l'exemple du ménage, c'est un peu ça que tu ressens ?
Oui, déjà, mais surtout, en fait, au bout d'un moment, c'est perçu comme une forme de harcèlement, tout simplement. Et si tu harcèles quelqu'un, quel que soit le sujet, personne n'a envie d'aller dans ton sens, en fait. Et c'est un cercle vicieux, d'ailleurs, parce que plus tu harcèles, moins l'autre va avoir envie de le faire, donc moins l'autre en fait, plus tu es au désespoir, et plus tu vas avoir tendance à remettre le sujet sur la table en disant mais alerte, j'ai besoin de toi, et l'autre en mode alerte, tu me saoules quoi, et ça pète. C'est toujours pareil, un peu mais pas trop, je pense, sur la communication des choses difficiles comme ça.
Oui, et puis comme ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en avoir conscience justement c'est la première étape, et je pense que c'est vraiment 50% du travail.
Oui, et tu vois, dans les bonnes habitudes, puisque c'est le sujet de ce podcast, en fait, prendre la bonne habitude de se remettre en question, mais je pense que c'est absolument essentiel. Tu sais, très souvent, je fais des vidéos sur comment glow up. C'est un peu le mot des jeunes. Glow up, ça veut dire évoluer vers une meilleure version de soi-même.
Et physiquement, d'ailleurs, c'est souvent utilisé physiquement, mais
alors qu'en fait,
aussi, ouais.
Oui, il n'y a pas de meilleure façon de devenir plus beau ou plus belle que de prendre confiance en soi, que de se remettre un peu en question, parce que ce sont des choses qui paraissent physiquement, et très souvent on se dit « Ah, si j'avais le nez plus fin, si j'avais les cheveux ceci, si j'étais plus mince ou plus gros ou plus musclé ou que sais-je, je serais mieux », alors que fatalement, vraiment, mais combien de fois j'ai entendu des gens, ou vu des gens, à qui on disait « Oh là là, mais oh, t'es radieuse, qu'est-ce que t'as ? Oh là là, mais t'es amoureux, mais ça te va si bien ?» Comment ça se fait que les gens s'émerveillent de ça ? Parce qu'effectivement, c'est le bonheur de vivre quelque chose qui nous fait du bien et qui nous fait nous sentir bien. Donc trop bonne habitude de se remettre en question et d'avoir conscience de ces choses-là, quoi.
Ouais, complètement. Complètement. Est-ce que toi, t'as des petites choses à rajouter ?
Oui, je voulais ajouter ma pierre à l'édifice. Parce que quand tu m'as posé la question de quelle est la bonne habitude que t'as prise et qui a un peu changé ta vie, même qui a complètement changé ma vie. Moi, donc, comme je le disais au début de ce podcast, je fais des vidéos qui parlent d'histoire d'amour. Et il se trouve que quand je m'y suis mise, bah j'avais mes petites idées toutes préconçues sur plein de choses. Et j'ai appris à déconstruire énormément. Par exemple, je me souviens d'un commentaire qui disait sous mes vidéos, quelque chose de très bienveillant, hein. « Nadia, tes vidéos sont hétérocentrées. » Qu'est-ce que ça veut dire une vidéo hétérocentrée ? Ça veut dire qu'en gros, je prends jamais en compte l'éventualité que ce conseil puisse par exemple s'appliquer aussi à un couple LGBT. Parce que moi en fait, je partais tellement du principe que bah, je parle d'être humain. Donc oui, effectivement, comme moi je suis hétéro et que je suis majoritairement parlant entouré d'hétéros, bah je dis lui et elle et puis ça s'arrête là. Mais en fait je me suis un peu ouverte sur la question parce qu'au début je me suis dit connasse, tu viens me faire chier, genre tu cherches à dire quelque chose de négatif, et là je me suis rendu compte que c'était bête de penser comme ça, parce que si elle a mis ce commentaire qui en plus était bienveillant, c'est à dire qu'elle a pas dit tes vidéos c'est naze ou quoi que ce soit, elle m'a juste dit je trouve tes vidéos hétérocentrées. J'y ai pensé et je me suis rendu compte qu'en fait déjà elle avait raison et que j'avais aucune raison d'hétérocentrer chacun de mes propos. En fonction de son ouverture d'esprit, ça peut paraître tiré par les cheveux ou pas cet exemple-là. En tout cas, je sais que moi, ça a commencé là, le fait de prendre cette habitude d'être plus ouverte d'esprit. Par exemple, en commençant mes vidéos qui parlaient d'amour notamment, jamais de la vie, je me sentais dans la tolérance par rapport à une idée de polyamour ou de couple libre. Genre je me disais mais mon dieu, mais jamais de la vie. Ou alors pareil, un plan cul, genre je me disais mais jamais de la vie, c'est une trop mauvaise idée, etc. Au fur et à mesure que j'ai fait des vidéos, je me suis ouverte en me disant, mais en fait, c'est pas parce que à moi ça ne me correspond pas que ça va pas correspondre aux autres. Et si le but de ma chaîne YouTube, et c'est le cas, c'est le but, c'est d'aider des gens, mais évidemment qu'il faut que je prenne en compte diverses possibilités et pas que celles qui me conviennent. Et ça peut paraître évident, mais en réalité j'ai fait un très très long chemin et je me rends compte que je suis tellement plus tolérante et parfois je croise des gens qui avaient les mêmes modes de réflexion que ceux que j'avais avant. J'irais pas jusqu'à dire que j'ai un peu honte de ce que j'aurais pu dire ou penser à l'époque, mais parfois un peu aussi.
Donc ça a changé aussi d'un point de vue personnel, ta perception
là. Complètement. Ouais. Tu vois, typiquement, mon bouquin, je l'ai écrit en écriture inclusive. Mais je pense qu'il y a quelques années, je me serais dit, mais pff, connasse, qu'est-ce que tu nous saoules avec ça. Et en fait, aujourd'hui, du coup, je croise des gens qui me disent, ah, non, mais franchement, quel intérêt. Donc déjà, dans le jugement. Je réponds toujours avec tolérance parce que je me rappelle que j'ai été dans cette situation-là avant. Et simplement, je réponds que moi, ça m'a rien coûté. Alors si, c'est vrai que c'est un peu particulier d'écrire en écriture inclusive, donc bon, il faut s'y mettre.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait d'utiliser il, c'est ça, pour il et elle.
Voilà, par exemple, au lieu d'écrire précieux ou précieuse, tu vas écrire précieux, IEUX.SE.
Oui, voilà. Prendre en compte tout le monde.
Voilà, au lieu d'écrire il, elle, tu vas écrire il. Donc finalement, c'est presque plus pratique. Mais bon, voilà, j'ai juste eu à prendre cette habitude-là. Et en fait, je me suis dit, moi, ça ne me coûte rien. Et ça peut faire du bien à certaines personnes. Donc le rapport entre ce que ça me coûte et le bien que ça peut faire à d'autres gens, mais quel bonheur. J'ai reçu tant de messages de gens, même parfois je mets les titres de mes vidéos en écriture inclusive, déjà ne serait-ce que parce que ça prend moins de place et ça m'arrange, mais en plus parce que ben, je crois en l'écriture inclusive, parce que je sais que ça fait du bien à certaines personnes qui ont besoin de se sentir représentées. Parfois j'ai des messages qui me disent, mon Dieu, mais merci Nadia d'utiliser l'écriture inclusive, ça nous fait du bien, etc. Moi je me dis, mais ça m'a coûté si peu et ça te fait si plaisir, mais avec grand plaisir.
Ouais, surtout dans la période dans laquelle on est, où on vit, où en fait l'acceptation, et on n'y est pas encore, mais même de l'orientation de genre déjà, de base, et même sexuelle ou autre d'une manière générale, on est beaucoup plus libre, pas vraiment dans notre pays, mais c'est beaucoup plus pris en compte, c'est ce que je veux dire.
Je pense que c'est plus accepté, toléré. Il y a évidemment encore une fois un très long chemin à faire. Oui, c'est plus accepté, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi c'est plus accepté? Parce qu'on en parle plus. Mais il y a un si long chemin à faire, vraiment. Mais combien de gens, pour le coup, absolument intolérants, qui, à l'instar de celles et ceux qui me disent « Oh, merci pour l'écriture inclusive », vont me dire « Yel, sérieusement, on en est là ?» Et tu sais, dans ma tête, je me dis « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut te foutre ?» Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés à la langue française, blablabla, mais en fait, la langue française, elle évolue depuis toujours, et pourquoi elle continuerait pas d'évoluer, quoi?
Complètement.
Parce qu'à ce moment-là, continuons à parler en vieux François. Il faut juste accepter de vivre avec son temps, avec l'évolution.
De la même manière qu'il y a beaucoup plus de mots anglais aussi dans notre langue. Enfin, c'est dans la même idée d'évolution.
Ça évolue, exactement. Et moi, je trouve ça merveilleux que chacun ait de plus en plus la place de s'affirmer tel qu'il a envie de le faire. C'est hyper important. Maintenant, évidemment, il faut toujours trouver un juste milieu. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont ne parler que de ça. Et en fait, c'est comme n'importe quel extrême. Si tu parles que de ça, parce que c'est ton combat, etc. En tout cas, toi et moi, on sera pas copains, parce que, évidemment, on peut parler de ça, mais c'est cool de parler d'autre chose. Malgré tout, il faut aussi des personnalités comme ça pour que les choses avancent. Voilà. C'est ça, ma bonne habitude qui a changé ma vie. C'est de me forcer, à chaque fois que j'ai tendance à me dire « Ah, vas-y, encore quelqu'un qui cherche à exister ou quoi que ce soit », d'essayer de réfléchir à ce qui l'a amené à poster notamment ce commentaire ou cette remarque, pour me remettre en question, ou alors éventuellement devenir plus tolérante et plus ouverte en fait sur tous les sujets, parce que de toute façon, se fermer à un sujet, je pense que ce n'est jamais une bonne idée. Essayer de comprendre l'autre, c'est trop intéressant quoi. Enfin, moi j'en ai fait mon fonds de commerce, donc forcément ça m'intéresse, mais...
Ouais, un peu moi aussi, c'est un peu...
Voilà, exactement.
Mais ça me fait penser, j'ai eu un peu pareil, cette transformation, on va dire, d'un point de vue mentalité, je sais même pas si c'est une transformation, mais de me dire que les gens un peu aigris, tristes, qui vont crier et tout, alors on sait jamais l'histoire des gens, et parfois ça peut expliquer certains comportements, ça n'excuse pas tout, l'idée c'est pas de se faire marcher sur les pieds. J'avais entendu parler un jour d'une dame, on m'avait rapporté une amie qui bossait dans un commerce, elle était odieuse, etc. En fait il se trouve qu'elle a un mari qui soit est très manipulateur, soit potentiellement violent ou je ne sais quoi. Je me suis mise à la place de cette personne en me disant, en fait elle ne fait que rejeter son mal-être sur les autres. Et à partir du moment où je me suis dit, on le dit, mais vraiment on ne sait pas ce que vivent les gens mentalement, en interne, même sans qu'ils l'expriment. Et c'est difficile de juger la manière dont ils peuvent réagir ou discuter. Encore une fois, ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer tellement de choses. Et moi, ça m'a permis d'être un peu plus tolérant aussi envers certaines personnes qui peuvent être dans un mal-être plus ou moins profond et qui, du coup, le reversent un peu sur les, sur les gens. Je l'ai fait différemment. Moi, quand les moments où ça allait vraiment pas, c'était plus de la colère envers mes proches. Et je m'en suis beaucoup voulu d'ailleurs par rapport à ça. J'ai appris à me pardonner et puis surtout je sais pourquoi je l'ai fait. C'est juste que je rejetais quelque chose que je pouvais pas exprimer autrement. Ouais. Et je pense que c'est important de, effectivement, d'en avoir conscience et ça fait partie de l'ouverture d'esprit en général.
Mais je pense que malgré tout que la limite à ça, c'est justement d'être capable de poser ses limites. Parce que recevoir des retours constructifs et bienveillants, pas de problème. En revanche, la critique, j'allais dire déconstructive, mais oui voilà. Tout ce qui va être insultant ou quoi que ce soit, tu sais très souvent j'ai des messages qui disent « c'est pas méchant mais... » Si t'as besoin de préciser, c'est pas méchant, mais c'est que t'as mal formulé ton propos et reprends. Moi maintenant, en fait, ce genre de choses, je supprime. Tu sais, avant, je me disais, au nom de la liberté d'expression, ah bah non, je laisse, mais maintenant, en fait, non. Non, je suis désolée.
Si ça t'apporte rien, tu...
Déjà, mais même, tu sais quoi, même si le fond est constructif, je suis pas là pour souffrir. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas non plus. Point. Elle est là ma limite.
Et les réseaux sont très... aident vachement en fait à ça aussi. Je suis beaucoup plus maintenant dans cet état d'esprit ou pareil. Au départ, je me laissais un peu envahir et je suis contente de les faire... d'être sur les réseaux entre guillemets à mon âge et avec l'expérience de vie que j'ai jusqu'à maintenant en me disant en fait si c'est pour me faire crier dessus, insulter ou autre, non merci, pareil, je bloque, je supprime. Si ça ne m'apporte rien, ça n'a rien de constructif et c'est quelqu'un qui reverse justement sa haine parce qu'il sait pas s'exprimer autrement, bah...
On bloque de toutes les façons possibles.
Mais c'est sûr que c'est hyper intéressant et c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter parce que ça permet d'avoir justement plusieurs points de vue, plusieurs opinions et du coup peut-être vous permettre de vous retrouver.
D'enrichir le propos.
Exactement, merci. Sur ces bonnes paroles.
Sur cette bonne parole.
Sur ces bonnes... cette bonne parole au singulier. Merci en tout cas pour tous ces petits points. Est-ce qu'il y a une phrase ? Je termine toujours l'épisode avec une petite phrase qui, voilà, qui peut être inspirante pour toi ou même pour les autres.
Dans tout ce qu'on s'est dit là, j'ai l'impression que, tu sais, le résumé c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera. Alors je parle rarement du ciel parce que je suis tout à fait athée, mais je suis assez d'accord. C'est une phrase que j'utilise beaucoup dans mes vidéos. Les gens qui donnent les moyens de leurs ambitions, ce sont des gens qui persévèrent en fait et qui souvent récupèrent les lauriers de tout ce travail. Et aide-toi et le ciel t'aidera, ça va avec les fameuses bonnes habitudes qui ont changé nos vies dont on a parlé dans ce podcast. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait que si tu veux réellement quelque chose, tu es capable de l'avoir. Et ça peut sonner si bateau, mais c'est si vrai. Les gens qui ne lâchent pas l'affaire, il y a zéro raison qu'ils n'arrivent pas à leur objectif.
Ouais.
Si t'es persévérant, si tu lâches pas l'affaire, tu vas forcément y arriver. Alors peut-être pas aussi haut que ce que t'espères, mais dans tous les cas, atteindre un objectif, quel que soit le niveau auquel on l'atteint, c'est déjà une réalisation en soi. Et de toute façon, après, si tu continues de persévérer, tu peux peut-être d'ailleurs arriver aussi haut que ce que t'espères.
Oui, et puis partir du principe que de toute façon, si tu sais que tu donnes le meilleur de toi-même, et que tu t'accroches, faire preuve de patience aussi, ça c'est important, je trouve qu'on... La société actuelle en manque un peu.
Tolérance toujours, hein, même
tolérance
envers soi-même.
Aussi, ouais. Quand on va dans une direction et qu'on s'accroche et qu'en même temps on prend conscience de... Je vois un peu ça comme une route. Il y a des panneaux, parfois il y a des avertissements, on fait attention, on se remet un petit peu en question, puis après tout va bien, on repart, etc. J'aime bien cette image en fait parce qu'on avance, on continue d'avancer en prenant en conscience tous les aléas de la vie ou les obstacles ou même ouais, les difficultés en général. On les gère mais on garde un peu cette ligne de conduite en se disant qu'on fait du bien, donc normalement ouais, on...
C'est ça, et c'est hyper important ce que tu viens de dire, de donner le maximum, parce que je pars du principe que si tu donnes tout ce que tu peux, si tu fais vraiment de ton mieux, tu peux pas être déçu à la fin, tu peux pas avoir de regrets puisque tu sais que t'aurais pas pu faire plus. Vivre là-dedans, alors ça peut être un peu épuisant donc faut quand même choisir ses combats, mais vivre là-dedans en mode j'ai mon objectif et j'ai tout fait, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu, et ben si un jour t'arrives pas aussi loin que ce que t'espérais, de toute façon tu seras pas aigri puisque tu sais que t'auras fait tout ce qui était en ton pouvoir.
Oui, ça nécessite pas, par exemple, si vous voulez lancer un projet, ça me vient en tête. Et c'est une mentalité, je trouve, très américaine qu'on entend beaucoup. Travail dur. L'idée, c'est pas de s'épuiser à la tâche, mais c'est de, quand on fait quelque chose, quand on se concentre sur quelque chose, on donne le meilleur de soi. Et à partir de là, comme tu dis, on peut pas avoir de regrets, en fait.
Exactement.
C'est pas forcément y passer ses jours et ses nuits. Je précise parce qu'il y a des moments où moi, je me sentais mal. Je me disais parfois, mais je suis pas là à bosser H24, en fait. C'est juste que quand je bossais, j'y allais à fond. Mais le reste du temps, quand j'en profitais ou quand je me détendais ou quand je faisais autre chose, bah, j'allais à fond aussi. Je pense que c'est important dans tout ce qu'on fait, effectivement.
Et ça va avec vivre le moment présent.
Exactement. Merci en tout cas, parce que c'est parfait à chaque fois, inconsciemment, plus ou moins maintenant avec le temps, je crois. Quand j'ai un sujet, je trouve une phrase qui conclut bien, justement, qui donne la bonne lancée, qui conclut bien l'épisode. Donc merci beaucoup à
toi. Ben, merci à toi, ce fut un plaisir. Et puis j'espère que c'était un plaisir partagé par nos chers auditeurs.
Totalement. Vous pourrez de toute façon retrouver en lien tous les réseaux de Nadia, Instagram, YouTube. Et puis ton livre aussi, si
oui,
ça vous intéresse.
Parlons cash aux éditions Larousse.
Et de mon côté, bah, comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien Instagram du podcast @uncafépodcast et mon profil Alice-Diopa. Merci encore d'avoir été mon invitée,
avec
ma
plaisir.
Première invitée. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.